De retour à notre émission, Daniel Côté, le maire, est avec nous. On va parler du plan de mesures d'urgence de la ville de Gaspé qui sera amélioré. Et c'est une nouveauté, c'est un nouveau programme qui a été lancé par le gouvernement. Il y a des obligations aussi de par le gouvernement pour prévenir la population et aussi en cas de sinistre de pouvoir l'héberger. Donc, il y a plusieurs éléments dont on va parler avec Daniel Côté là-dessus. Bonjour Daniel Côté.
Oui, bonjour. Oui,
c'est un programme bon, qui a été mis en place pour venir aider les municipalités à se préparer en cas de sinistre.
Effectivement. En fait, si je pense à la ville de Gaspé, ça fait quand même plusieurs années là, qu'on a un plan de mesures d'urgence qui a été bien éprouvé. Hein. On se rappelle des inondations de 2007, de celles de 2010. Il y a eu différentes périodes où on a dû mettre en place le plan de mesures d'urgence. L'équipe est très solidaire, l'équipe municipale, mais tous les partenaires qui gravitent autour du plan de mesures d'urgence sont toujours très solidaires pour l'application du plan de mesures d'urgence lorsque c'est requis.
Alors, quand on parle évidemment de sinistre, on a vu plusieurs exemples. On sait les inondations, le printemps s'en vient. On a déjà vécu ça, mais on a vu aussi cet hiver-là ce qui s'est produit lors d'un appel de la ville pour une tempête imminente qui aurait pu causer justement beaucoup de problèmes. Donc, le gouvernement exige une meilleure préparation des municipalités là, pour ce genre d'événement.
Effectivement, ça peut être pour des tempêtes de neige, ça peut être pour des pannes de courant de longue durée, si on n'est pas à l'abri de ça non plus. Ça peut être pour des risques d'érosion côtière lors des périodes des grandes marées, par exemple. Ça aussi, on a vu des sinistres arriver. Ça pourrait être pour des incendies majeurs aussi. Il suffit qu'un parc où il y a des appartements ou un secteur qui a des appartements, il suffit qu'il y ait un ou deux blocs qui passent au feu. On se retrouve dans une situation d'urgence où on doit relocaliser des dizaines, sinon des centaines de personnes. Donc, il y a tout plein de risques. Il n'y a pas une municipalité qui est à l'abri de ces risques-là. Donc, nous, ce qu'on a à faire, c'est déployer un plan de mesures d'urgence. Notre plan, il est prêt, il est éprouvé, mais il va être rééprouvé et réévalué dans le cadre là, de la révision du programme. Mais il y a plein de possibilités où on doit mettre en œuvre le plan de mesures d'urgence. Ceci dit, c'est pas le cas dans toutes les municipalités, évidemment. Il y en a qui ont à peine un plan de mesures d'urgence. Donc, le gouvernement a adopté des nouvelles règles l'année dernière, en 2018. Il y a un nouveau règlement qui a été mis en place pour améliorer les procédures d'alerte et de mobilisation pour s'assurer que les plans de mesures d'urgence puissent être mis en œuvre lorsque requis. Dans ce nouveau règlement-là, il y avait deux étapes. Une première étape, c'est de faire un auto-diagnostic de l'état de notre plan de mesures d'urgence. Donc, ça ici, évidemment, ça a été fait. Et la deuxième étape, c'est l'amélioration du plan en question et la mise en place de systèmes d'alerte. Puis aussi s'assurer là, qu'on a des centres de coordination, des centres d'hébergement temporaire s'il arrive une situation problématique. Bref, c'est tout ce grand volet-là. Moi, je vous dirais qu'au niveau du plan de mesures d'urgence ici, il est quand même assez solide. Il y a peut-être des petits trucs minimaux là à réviser. Donc, ça fait partie du programme en question. Le gros élément, je crois, sur lequel on doit tabler, c'est la question du système d'alerte. Il fut un temps où les gens n'étaient pas aussi accros à la technologie cellulaire qu'ils le sont présentement. Aujourd'hui, à peu près tout le monde a son téléphone cellulaire entre les mains et c'est via ce moyen de télécommunication-là que les gens sont rejoignables. Traditionnellement, on recourt aux ondes radio. C'est pas tout le temps tout le monde aujourd'hui qui sont branchés en continu sur la radio, contrairement à une certaine époque. Donc, il faut vraiment adapter la façon d'alerter les citoyens et ça n'empêche pas, il faut toujours avoir recours à la radio parce qu'il y a des gens qui sont pas sur la technologie cellulaire non plus, mais il faut ajouter à nos moyens traditionnels la question de la technologie cellulaire ou d'autres moyens pour rejoindre les gens s'il y a un risque imminent pour leur sécurité, bien, ça prend, faut mettre de l'avant tous les moyens possibles.
C'est
de cette manière-là qu'on doit le faire.
En quoi ça consiste, oui, le système, est-ce que vous voulez mettre en place, là?
Je vous dirais qu'on a fait des tests récemment sur d'autres éléments. Tu sais, les avis publics de la ville, les gens peuvent s'inscrire en ligne, là, puis ils peuvent recevoir les avis publics par voie de courriel. Donc, ça rentre sur votre téléphone ou sur votre ordi. Pour les avis publics ou les, par exemple, des avis d'ébullition pour l'eau potable ou des avis de rupture de service d'aqueduc temporaire ou des trucs de ce genre-là, on a mis une procédure en place là-dessus. Par contre, quand on tombe dans les mesures d'urgence, quand il y a un risque imminent d'inondation, par exemple, c'est ce qu'on vit surtout ici, des inondations, là. Bien, il faut être capable de rejoindre les gens efficacement et rapidement. Donc, ce type de service-là, et je ne suis pas sûr que le courriel est la meilleure méthode pour rejoindre les gens. Je pense que le texto, les SMS, ça doit être la meilleure méthode de le faire. Mais La petite étude là, qui va être faite là, avec la subvention auquel on a accès là, dans le fameux programme de sécurité civile dont on parlait, cette étude-là va nous permettre de déterminer la meilleure procédure pour rejoindre le maximum de gens que possible. Évidemment, il faut recourir à la radio parce que tout le monde a une facilité à se brancher à la radio, mais ceux qui n'ont pas la radio ouverte, mais il faut être capable de les rejoindre via je pense que c'est les téléphones cellulaires, je pense que c'est la meilleure façon de rejoindre les gens aujourd'hui. Bref, faut établir la procédure pour ça, puis le système électronique qu'il faut pour mettre ceci en œuvre. Mais là, c'est des spécialistes là, qui vont nous dire exactement quoi faire. Nous, on a appliqué pour une subvention de 10 000 $. Le programme prévoit à ce moment-là que la ville doit mettre 2 000 $. Donc, on s'est engagé à mettre notre 2 000 pour recevoir un 10 000 $. Donc, c'est une subvention de 83% là, pour mettre en œuvre ce type de système-là.
Bon, quelles seraient, les applications, des pistes différentes ou...
Ben en fait, moi, ce que je remarque le plus, c'est plus les fameux systèmes de SMS automatisés. Là. C'est ce que TELUS utilise lorsqu'il y a une problématique, par exemple, avec la téléphonie cellulaire. Bon, on reçoit une alerte de ce type-là. Quand on arrive dans un autre pays, par exemple, on reçoit une alerte automatisée qui vient de notre fournisseur de cellulaire disant « Hey, attention, pour pas avoir de surprise sur votre bill de téléphone, vous êtes arrivé dans un autre pays, voici nos tarifs pour ce pays-là. » Bref, des systèmes automatisés, ça existe. Fait que comment on peut le faire à l'échelle d'une municipalité et non pas à l'échelle d'une multinationale avec des millions de clients. Là, nous, on a 15 000 clients qui s'appellent des citoyens. Mais comment on fait pour être capable de les rejoindre? Comment on fait pour bâtir la liste d'envois en question? C'est tous ces éléments-là qu'il faut établir. Je pense que le SMS est l'une des meilleures façons de faire, ou sinon peut-être un message automatisé vocal. Ça existe sous cette technologie-là. Cependant, il faut l'implanter à l'échelle locale. Et c'est ça qui est pas si évident que ça. Et on ne peut pas se mettre sur le téléphone et rejoindre une à une chacune des personnes qui sont en risque d'alerte. Donc, il faut vraiment avoir un système automatisé. Mais on n'est pas spécialiste de cette question-là, d'où l'importance de s'adjoindre à des experts via ce programme-là.
C'est une obligation, dans le fond, du gouvernement de se munir d'un système comme ça?
L'obligation gouvernementale, c'est de se munir d'un système d'alerte.
D'alerte.
Le système d'alerte, je ne sais pas si un système d'alerte traditionnel via les ondes radio est suffisant pour le gouvernement. Peut-être que oui. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aller le plus loin possible au niveau de la procédure d'alerte. Fait que c'est pour ça, je pense qu'on doit s'inspirer de ce qui se fait, ailleurs, et on doit regarder les meilleures façons de rejoindre les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont branchés sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont des cellulaires. Il y a beaucoup de gens qui écoutent toujours la radio et on est bien content parce qu'on profite de cette tribune-là pour parler aux gens. Mais tout ça cumulé, en fait, je pense qu'il faut cumuler les moyens de télécommunication pour rejoindre le maximum de gens possible lorsqu'il arrive une situation risquée. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'aller de l'avant avec ce système, avec cette demande-là qui vient appuyer les démarches qu'on a au plan de mesures d'urgence.
Et on parle aussi de trouver un endroit d'hébergement pour la population dans le cas de sinistre comme ça. Est-ce qu'il y a des endroits désignés pour la ville de Gaspé?
Dans le plan de mesures d'urgence, oui, il y a des endroits désignés. Si je pense du côté du centre-ville, habituellement, c'est dans le gymnase de l'école CE Pouliot qui sert de centre de réhabilitation, d'hébergement temporaire, je devrais plutôt dire. Habituellement, c'est ça. Il y a toujours des endroits qui sont désignés dans le plan de mesures d'urgence. On a des plans A, des plans B, des plans C. Habituellement, tout ce volet-là est pris en charge par les bénévoles de la Croix-Rouge. On est assez bien rodé là-dessus, puis je vous dirais que par expérience, les dernières fois où on a eu à ouvrir un centre d'hébergement, il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont, puis je vais vous dire simplement pourquoi, c'est que tout le monde se connaît à Gaspé. Fait que tout le monde a de la famille, a des amis, etc. Fait que plutôt que de voir nos gens aller dans un centre d'hébergement temporaire, d'habitude, les gens vont chez de la famille ou chez des amis. C'est naturel, ça fait partie aussi du côté communautaire qu'on a qui est fort. Par contre, des gens qui n'ont pas d'endroit chez de la famille, chez des amis, etc., il y a toujours des centres d'hébergement qui sont disponibles. Fait que dans le cadre de la procédure là, du programme d'aide financière dont on parle depuis tout à l'heure, on peut réviser cette procédure-là. Jusqu'à date, ça a toujours bien fonctionné. Il n'y a jamais eu de problème de débordement dans les centres d'hébergement temporaire. Mais c'est certain que tout ça va être revisé dans le cadre de la procédure. Dure, là, liée à la subvention en question.
Ben alors voilà, donc, Daniel Côté, merci beaucoup pour être revenu sur, évidemment, ce plan de mesures d'urgence et ces nouveautés là, qui vont s'amener là, par rapport à ce plan-là, notamment sur les moyens de communication pour alerter la population. Merci beaucoup.
Merci à toi.